Matthieu 6, verset 6, en fait je vais lire le verset 5 aussi. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues. Alors le problème, c'est pas qu'ils soient debout, c'est pas qu'ils soient dans la synagogue, c'est pas qu'ils soient dans la rue. Ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Leur récompense, c'est juste que les autres, ils disent « Oh, qu'est-ce qu'il est pieux, celui-là ». Aujourd'hui, on ne dit plus comme ça. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, aujourd'hui, c'est deux phrases auxquelles on est habitué. Il n'y a rien qui nous choque tant que ça aujourd'hui. Mais déjà, le simple fait que Jésus dise « ton Père », pour les premiers auditeurs, ça signifiait quelque chose et ça a été dit pour les millénaires qui suivent. Si Jésus dit « ton Père », c'est un trop-plein de son propre vécu de fils éternel et aussi d'être humain, d'enfant et homme sur terre qui avait une relation avec une relation si... si glorieux, si limpide, si simple aussi, si simple avec son Père. Alors, ensuite, il y a des choses qui sont dans ce texte où je ne sais pas ce que ça veut dire. Entre dans ta chambre, à cette époque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sincèrement, parce que les familles étaient loin d'avoir une chambre par enfant. ou même par adulte où ils pouvaient entrer et fermer la porte. Alors, est-ce que c'est la chambre? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pardon ? Le cœur ? Au minimum. Alors, oui, ben voilà, on va aller un peu dans ce sens. Ferme ta porte. Donc, il y a clairement une idée d'intimité, voilà. Hein. Mais surtout, et prie ton Père qui est dans le secret. Alors, il n'y a pas le mot lieu, c'est peut-être pour ça qu'on peut penser au cœur. Il n'y a pas le mot lieu en grec, simplement, il y a dans le crypto. Et le crypto, c'est le mot grec pour secret. Alors, ce n'est pas pour faire du grec, là, c'est juste parce que j'aime bien ce mot. Ça va nous servir de résumé et d'aide mémoire pour ce dont on parle aujourd'hui, le crypto. Parce que, en fait, là, Jésus, il répond à une question qui n'est pas posée ici, mais qu'il n'est pas rare qu'on se la pose, c'est où est Dieu ? Où est Dieu ? Et là, Jésus dit, vous voulez savoir où est Dieu ? Il est dans le crypto. C'est-à-dire, il est dans une intimité. Et là, ton Père qui voit dans ce lieu, là, il te voit, il te le rendra. Alors, je finirai le message en revenant à la fin du verset. Ton Père voit. Là, il voit. Parce que tout le contexte des deux versets qu'on a lus, c'est que certains avaient pour objectif d'être vus des hommes et d'être bien vus, ce qu'on appelle être bien vu, avoir la côte, hein, être bien considéré, en mettre plein la vue aussi peut-être. Et puis, Jésus il dit, si ton objectif c'est d'être vu du Père, ça va être autre chose. À noter juste en passant que, enfin en passant, non, c'est pas en passant, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ton Père te le rendra. Et ça ne veut pas premièrement dire va exaucer ta demande, ça fait partie. Mais premièrement, ça veut dire te le rendra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il te fera comme tu lui as fait. C'est-à-dire, tu t'es mis à part, tu t'es rendu de tout cœur vers lui, ben lui, il se rend de tout cœur vers toi. Alors, on sait, quand on connaît le Nouveau Testament, que c'est lui qui commence. Hein? Et que c'est Dieu qui commence et qu'il a envoyé Jésus sans que personne lui demande de l'envoyer. Donc, c'est lui qui commence. Mais quand même, c'est une bonté immense hein, quand la Bible dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Ça commence pas par « moi, je m'approche », ça commence que c'est lui qui est venu. Mais quand même, Dieu considère et honore une orientation de mon cœur à me trouver avec lui. Ton Père est là. Ton Père est là. Ça signifie pas, le but de Jésus, c'est pas de le localiser géographiquement. Vous entendez, hein, il n'est pas plus dans cette pièce que dans une autre, il n'est pas plus ici que dans le local d'à côté, enfin, ok. Hein. C'est pas de le localiser physiquement ou géographiquement, mais il y a une espèce de là, avec l'idée, là, il t'attend. Là, il t'attend. Voilà. Là, sa réalité, ce que Dieu est, voilà, ce soleil, plus que l'étoile vue de loin, sa réalité attend mon tout, m'attend, attend moi, comme je suis, un jour bondissant, un jour tout pleurant, voilà. Alors, en fait, on sait que Dieu n'est absent nulle part, d'accord? Une des choses qu'on apprend, Dieu est omniprésent, il est présent partout. Donc, est-ce que quand Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, ton Père est dans le crypto, dans un espèce de lieu privilégié, est-ce que c'est d'autres mots pour dire que Dieu est omniprésent? Non, ben, il y a déjà je ne sais plus ton prénom qui fait non. Non, non. Dieu n'est absent nulle part. Vous connaissez le psaume 139. Si je monte aux cieux, tu es là, tu y es. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Donc, il est absent nulle part. Donc, et pourtant, Jésus met le doigt sur, il y a un lieu secret, il y a un secret, il y a une intimité. Il y a une intimité que Dieu t'ouvre. Et alors, il y a un épisode biblique qui m'est revenu en mémoire, c'est quand Dieu appelle Moïse. Moïse, il est avec, c'est dans Exode 3, il est avec les troupeaux. Et puis, à un moment, il voit un peu au loin un buisson qui brûle. Et seulement, il brûle, il brûle, il brûle, seulement il ne se consume jamais. Et donc, la Bible dit que Moïse fit un détour. Il dit, je vais m'arrêter. Donc, il fait un détour, il va voir ce que c'est. Et c'est marqué, Exode 3, verset 4, l'Éternel, voyant qu'il faisait un détour, appela Moïse. Et à la toute fin de sa vie, dans Deutéronome 33, et à la toute fin de ce qu'il a écrit d'ailleurs, Moïse désigne l'Éternel comme celui qui demeure dans le buisson. Et il ne s'agit pas de le localiser géographiquement, il ne s'agit pas d'aller courir la campagne et trouver un buisson, et Dieu sera là. C'est le langage de Moïse. Dans son cas, dans son expérience, Dieu s'est révélé à lui dans un buisson. Après, des milliers de fois, il a rencontré Dieu, pas dans un buisson, sur la montagne, dans la tente qui était tout à fait hors de la communauté, dans le tabernacle, partout, n'importe où, je ne sais pas. Mais dans son expérience, ce vocabulaire buisson signifiait le crypto de Dieu, le lieu entre Dieu et moi. Bien que concrètement, après, ce n'était plus un buisson. Donc, je ne parle pas de trouver un lieu ou une position qui va faire que je suis plus près de Dieu. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais je veux dire, Dieu a prévu un lieu, un espace, un temps, et voilà. Privilégié. Pour moi. Pour moi. Il y a un buisson spécial pour toi. Voilà. Il y a un lieu privilégié comme ça. Alors ça veut dire, si vous voulez, je vais le dire autrement, non seulement Dieu existe, non seulement Dieu est omniprésent, non seulement Dieu a parlé, non seulement une partie de ce qu'il a dit, il a voulu que ce soit écrit et nous l'avons, non seulement il continue à parler à son peuple, mais il existe une présence de Dieu expérimentale, une présence de Dieu où je peux soit être absent, soit aller. Voilà. Dieu n'est absent nulle part. Il est tous les jours avec moi, mais il existe une présence ouverte, chaude, prédestinée. Et moi, je suis prédestiné à être là. Et de cette présence, je peux être absent et vaquer à faire ma vie, ou je peux être là. Et là, vous avez en écho des choses du genre, le psaume 27, verset 4, « Je demande une chose à Dieu, c'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Donc, c'est-à-dire, je suis attiré vers ce crypto. Voilà. Et en fait, il le redit, ça c'est 27, verset 4, et au verset 8, dans le même psaume, 27, verset 8, il dit, « Mon cœur dit, de ta part, cherchez ma face. » Autrement dit, ce n'est pas seulement la voix extérieure de Dieu qui m'invite dans son lieu, mais mon propre cœur, habité par lui et inspiré par lui, le dit. Et donc ça rejoint mon âme bénit l'Éternel. Mon propre cœur dit, c'est impressionnant, ça veut dire que quand j'ai soif de sa présence, c'est un très vieux cantique ça que j'aime beaucoup, il est tellement beau et il dit tellement de belles choses qu'il a été mis en musique avec plusieurs mélodies au long des générations. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma... J'ai soif de ta présence. Voilà. Et donc, le cantique est vieux, mais la réalité, elle est plus vieille encore. Hein. C'est des millénaires et des millénaires et des millénaires. Voilà. Donc, quand mon cœur a soif, c'est Dieu qui parle. Quand mon cœur a soif de me trouver dans son intimité, c'est lui qui le dit. C'est lui qui parle. Waouh. Psaume 62, verset 9. Épanchez vos cœurs en sa présence. Psaume 16, verset 11, qui est un psaume messianique. Il y a rassasiement de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et quand Acte 2 cite, c'est Pierre dans Acte 2 qui cite ce psaume 16, il dit, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Peut-être un résumé de après la mort et la résurrection de Jésus avec les apôtres, un résumé de la même idée dit par Paul, 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Ta présence, ta face, ta communion, c'est des mots interchangeables. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de la présence de Dieu, et c'est heureux. Ce qui est vraiment heureux, c'est pas tellement qu'on en parle beaucoup, c'est qu'on la recherche vraiment et qu'on vit dedans. Les chrétiens vivent toujours dedans, c'est pas ça que je veux dire, mais on est conscient que c'est vraiment ça qu'on veut, et on est conscient de s'y régaler, et ça nous transfigure, d'où un témoignage plus libre, plus léger, plus coloré, est plus facile à recevoir par ceux qui nous entourent. Parce que le principal obstacle qui empêche souvent les gens de se convertir autour de nous, c'est pas que nos arguments sont pas bons, c'est pas qu'on a pris la discussion par le mauvais bout, ça arrive, mais c'est pas le souci. Quand bien même ils adhèrent à tous nos arguments, ils se convertissent pas. Pourquoi ? Ça n'engage que moi ce que je dis, mais bon... En tout cas, il me semble avoir compris ça. Dans mon cas, pendant 20 ans, c'était juste qu'ils ne voulaient pas devenir comme moi. Voilà. Parce que j'étais porteur d'un message au lieu d'être moi-même le message. J'avais un tract d'évangélisation au lieu que ma personne soit le tract d'évangélisation. Et c'est ça, baigner dans la présence de Dieu, ça me transfigure. Et ça fait que quand je suis en contact avec quelqu'un que Dieu appelle, quand bien même j'aurais rien dit, il commence à avoir envie de devenir comme moi. Et on dit ça sans fierté, sans autosatisfaction, c'est notre privilège. C'est ce que dit Dieu répand en tout lieu par nous la bonne odeur de sa connaissance, la bonne odeur de Christ. Ok. Et vous savez, c'est, comment dire, ça dépend ce que, vous, ce que l'un ou l'autre entend par le culte personnel, faire son culte personnel, avoir un temps chaque jour ou pas chaque jour, ouvrir la Bible, prier, voilà. Ça dépend ce qu'on entend par culte personnel. Mais si par culte personnel, j'entends juste que bon, c'est un bon devoir de tous les jours le faire, etc., c'est une chose. Mais réaliser qu'il y a un crypto, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. C'est dans ce que j'appelle le culte personnel. C'est n'importe quand, c'est n'importe où, c'est Bible ouverte, c'est sans Bible, c'est en priant, c'est sans parole, c'est en louant Dieu, c'est en silence et sans louange, c'est n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi, c'est Dieu est là. Et donc, vous aurez bien compris que je n'ai pas fait le voyage pour... le but, ce n'est pas de vous dire, lisez plus votre Bible, prenez plus un temps, à part le matin, le soir, ou quand, enfin, ce n'est pas l'idée. OK, hein? Voilà. Alors, quand Jésus dit ça... Bon, là, j'ai un petit point sur le que je ne vais peut-être pas dire, ou alors archi-résumé sur la présence de Dieu. Oui, je vais le résumer un peu quand même, je crois. Ça nous paraît tellement une évidence que Dieu est présent. Et que c'est possible, que c'est ouvert. Mais il faut réaliser le privilège que c'est. C'est parce que Jésus est descendu. C'est parce que Jésus est venu. Auparavant, dans l'Ancien Testament, on lit des choses du genre Caïn, par exemple. Hein. Caïn qui dit, mais je vais être rejeté loin de ta face. Et puis Caïn sorti de la présence de l'Éternel, Genèse 4. La face de l'Éternel, c'est même une sanction. C'est incroyable. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal. Ou bien, et même en Israël, il est dit d'Israël, il les a écartés de sa face. Et puis une vingtaine de fois, l'Ancien Testament dit, l'Éternel cache sa face. Et puis Jésus vient et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez que c'est un miracle que Jésus ait été crucifié de longs mois après avoir dit ça, parce que normalement, ils auraient dû le lapider tout de suite, rien que de dire ça. Il arrive, c'est parce que à leurs yeux, c'est un homme, et c'est un homme. Dieu, mais homme aussi, et celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis la gloire de Dieu rayonne sur la face de Christ. Voilà. Donc c'est un privilège incroyable que ce soit ouvert. Quand on lit, nous avons accès au trône, etc. Mais c'est géant. Et c'est une des raisons pour lesquelles actuellement je suis énormément travaillé sur vivre dans la nouvelle alliance. Et ne pas être des gens qui sont sauvés par Jésus, mais qui dans leur rapport quotidien avec Dieu, sont toujours avec cette idée, est-ce qu'il est favorable, est-ce qu'il n'est pas favorable, est-ce qu'il montre sa face, est-ce qu'il cache sa face, est-ce qu'il accepte que je m'approche ou est-ce qu'il répugne à ce que je m'approche parce que, vous comprenez, vivre dans la nouvelle alliance. Ok, bon, ça c'est... Oui, j'ai déjà fait un message comme ça. T'es pas long celui-là, hein? C'est le plus court de ma vie. Alors, quand Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père est là. Il dit ça, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que lui, c'est ce qu'il expérimente ça en permanence. Et vous savez, voilà. Tout ce que Jésus nous dit, il le vit d'abord, il le fait d'abord. Alors vous lisez par exemple dans Marc 1 qu'il allait dans des lieux déserts pour prier. Voyez. Alors la vertu n'est pas dans le désert, c'est juste qu'il y avait de telles foules qui étaient autour de lui que bon, voilà. Et lui il savait, il y a ce lieu avec mon père, avec Abba, et là il m'attend. Là je suis attendu. Là, je suis attendu. Voilà. Même quand on va y arriver tout de suite, là, à son enfance, il est dit qu'il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, cette conscience de... Ok, mais ça, j'y reviendrai. Vous avez Luc 5, verset 16. Le verset 15 dit que sa renommée se répandait, que tout le monde voulait venir l'écouter, etc. Et le verset 16 dit, mais lui se retirait dans les campagnes et priait. Alors pourquoi ? C'est pas simplement la sagesse de fuir la pression, tout ça. C'est pas fuir quelque chose. C'est je suis attendu là. Ici tous, vous agglutinez, vous voulez m'entendre, mais mon père m'attend là. C'est-à-dire, il y a une priorité. Alors, Jésus ne s'est pas privé de passer du temps avec les gens et de guérir et de bénir et de parler, d'enseigner, de répondre, etc. Mais il y a une priorité. Il y a une priorité. Je suis attendu dans le crypto de mon Père. Dans le secret. Waouh! Un peu comme un enfant, si c'est son propre père ou sa propre mère qui lui a bâti une petite cabane. Et il est là, rien que toi et rien que moi, on va se retrouver là. Bon, c'est une image. Hein? Voilà. Retenons ça, je suis attendu. Voilà. Et Jésus le fait régulièrement, on lit ça dans Luc 9, hein? Verset 18. Il le fait régulièrement, pas seulement parce qu'il y a des circonstances particulières, qui dit, bon, il faut se retirer. Régulièrement, c'est une priorité. Voilà. Et bien sûr, ça va se reproduire dans les siens. Ça va se reproduire avec les disciples. Voilà. Il y a un chant, là, j'ai envie de l'évoquer. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît, sinon parce que c'est en anglais. Come away. Come away with me. Come away, ce qui veut dire à peu près, viens là, viens à l'écart avec moi, quelque chose comme ça. OK. En deux mots, c'est économe. Hein? Et alors, pourquoi je le... Et donc, après, ça, à un moment, il dit, ça va être géant, ça va être super, ça va être plein de moi. Et c'est Dieu qui parle. Et j'évoque ce chant parce qu'il y a beaucoup de chants, il y a énormément de chants dont les paroles disent ce que nous, on ressent pour Dieu. Il y a énormément de chants, et c'est heureux, et pas assez, qui confessent ce que l'Écriture dit, textuellement ou pas textuellement, mais voilà, et c'est géant. Et puis, il y a si peu de chants qui font écho de ce que Dieu me dit, de l'invitation de Dieu. Et moi, je suis très touché par ce chant, mais au long des semaines, hein, c'est impressionnant comme ça me suit. Dieu me dit, viens à l'écart avec moi, ça va être géant, ça va être super, ça va être plein de moi. Alors, Luc 2. Jésus enfant. En fait, je vais m'arrêter sur un paragraphe dans Luc 2. Et bien entendu, pour le comprendre correctement, enfin, oui, pour un bon bénéfice à la lecture de ce paragraphe, il faut se plonger dans le contexte de Luc 1 et 2. Donc, c'est le paragraphe, donc c'est des versets 41 à 52. Donc, si vous voulez, là, vous avez... donc il y a 11 versets, il y a un paragraphe de 11 versets qui est célèbre, c'est quand Jésus a 12 ans, et il est célèbre et il est extrêmement précieux. C'est un diamant d'une valeur incroyable. C'est le seul épisode que les évangiles nous rapportent de Jésus entre la toute petite enfance et son ministère adulte. C'est le seul épisode. Donc forcément, il est précieux, on va dire, tout ce qui est rare est précieux, mais il est précieux. Forcément, il contient ce qui doit être contenu quand je réfléchis sur comment Jésus, intime avec Dieu dès la petite enfance, intime dans une certaine mesure, est devenu ce qu'il est devenu adulte. Voilà. Alors, et pour le comprendre, il y a un préalable, je dois faire un préalable. Donc, avant de lire à partir du verset 41, je dois juste rappeler que Jésus, vous savez, la parole éternelle, le verbe éternel, la parole a été faite chair. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, que quand Jésus vient, quand Jésus naît, c'est Dieu qui s'incarne en homme, et c'est une vraie incarnation. Est-ce que vous savez la première chose que l'Évangile dit au sujet de Jésus à partir de sa naissance, du moment qu'il naît, quelle est la première chose qui est dite de lui? C'est que sa maman l'emmaillota. Et ça veut dire, alors ça veut dire qu'elle a mis des pièces de tissu autour de lui, ça, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que c'était une vraie incarnation. Ce n'était pas un monstre céleste, un bébé savant surnaturel, je suis fils de Dieu éternel, ce qu'il est. J'arrive sur terre, et regardez, je m'emmaillote tout seul. J'ai pas besoin de nourriture. Je cours partout, je prêche, je prophétise, je guéris. Vous voyez ? Un vrai bébé. Un vrai bébé. Et donc, qui, par exemple, pendant je ne sais pas combien de mois, comme vous, comme moi, n'a pas la conscience de soi. Il ne sait même pas ce qu'il est. Est-ce que vous rappelez à partir de quel âge vous savez que vous êtes un garçon, pas une fille ou l'inverse ? C'est à partir de. Mais au début, non. Au début, on n'est pas conscient. Et même papa, maman, on ne sait pas les identifier. Bon, mais Jésus, c'est une vraie incarnation. Il est devenu un vrai homme. Donc un vrai bébé. Donc un vrai tout petit enfant qui n'a même pas la conscience de soi. Et qui n'a pas la conscience surnaturelle du ciel. Jésus bébé, il n'a pas devant les yeux comme en cinémascope. Enfin voilà, le paradis ouvert, les anges, les chérubins, les archanges, le Père éternel, les séraphins qui dansent au-dessus du trône. Il n'a pas tout ça. C'est un vrai bébé qui n'est pas. Vous comprenez ? Alors pourquoi je dis ça ? C'est intéressant de le relever, mais c'est pas le but, que c'est intéressant. Le but, c'est que il a appris qu'il y avait un Père, qu'il y avait un lieu, qu'il y avait un crypto, qu'il y était attendu, que c'était son Père. Il est parti de zéro comme nous. Waouh ! Et c'est pour ça que c'est si beau quand on lit Luc 2, verset 40, donc juste avant le paragraphe dont j'ai parlé, le petit enfant grandissait. Il s'agit de Jésus. Et se fortifiait. Et puis petit à petit, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Grâce, beauté, faveur. Voilà, le rayonnement, la beauté de Dieu et la faveur, bienveillance de Dieu étaient sur lui et se montraient comme ça progressivement. Waouh. Alors par exemple, c'est un ange vient et dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et descend en Égypte. Et pourtant, il y a le Fils de Dieu là qui est présent. Il n'y a pas besoin d'envoyer un ange pour parler à Joseph. Jésus aurait pu dire, Dieu veut qu'on aille en Égypte. Alors ils auraient tous fait des bons. Il aurait dit, le bébé il parle, qu'est-ce qu'il dit le bébé ? Vous comprenez ? Alors Dieu a eu plaisir à le faire ça. Et dans la région, avec le prophétisme huguenot, il y a des bébés qui ont prophétisé. Et en français en plus, pas en patois. Donc, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas le faire, il pouvait faire ça avec Jésus. Mais s'il fait ça avec Jésus, les gens se disent, mince, ce n'est pas une vraie incarnation. C'est normal. Lui, c'est normal. Mais nous, non. Vous voyez ? Lui, il a accès comme ça dans l'intimité du Père, mais moi, non. Donc on peut même remercier Dieu qu'il n'ait pas fait ça avec Jésus et qu'il a envoyé un ange parler à Joseph, à Marie d'abord, puis à Joseph, puis etc. Ok. Waouh, waouh, waouh. Allez, verset 41. C'est le... Oui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, Ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Donc, ce n'était pas la première fois. Hein? Voilà. Jésus a 12 ans. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Parce qu'il venait de loin. Hein. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Donc là, ce n'est pas les médecins, c'est pour ça qu'on dit doctrine. C'est le mot qui veut dire des enseignants, des spécialistes de l'écriture, des érudits de l'écriture. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de sa compréhension et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Il commençait à s'angoisser. Puis, pardon, je n'ai pas besoin de te le dire, j'ai pas besoin de rajouter ça, c'est marqué. Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? » Il y a des trucs qui sont écrits dans la Bible des fois. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. J'aime beaucoup la version anglaise qui dit « treasured up », c'est-à-dire elle faisait un trésor de tout ça dans son cœur. Elle le ruminait, elle le repassait, elle en faisait un trésor. Elle thésaurisait ce qui s'était passé. C'est joli ce mot, hein, en français. Il n'y a pas qu'en hébreu qu'il y a des jolis mots, hein, ou en grec. Ou... Alors, bon, je me perds. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, ce qui veut dire physiquement, psychologiquement, etc. Sagesse, ça veut dire... La sagesse, vous savez ce que c'est la sagesse? C'est savoir vivre ou agir en s'alignant sur la révélation et ce qui inclut le temps où on est. Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? C'est ça. Il n'y a que ça de sage. Il n'y a qu'une chose qui est sage, c'est s'aligner sur ce que Dieu montre. Donc, il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et donc, vous avez tout le paragraphe qu'on a lu qui est encadré entre ces deux affirmations. Verset 40, le petit enfant grandissait, et puis ensuite, Jésus croissait. Voilà. Ça fait que quand Jésus a 12 ans, il a déjà grandi, puisqu'on voit que quand il parle, par exemple, du lien avec son père, il en parle dans une dimension que ses parents ne comprennent pas. Donc, la conscience de soi, c'est, voilà, il a grandi. Alors, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur ce qui est inclus dans ce passage, dans ce qu'on vient de lire. Alors, quelques mots pour bien rentrer dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est rentrer dans l'histoire et dire, oh, Jésus, parle-moi. Alors, le fait que, d'abord pour commencer, le fait que l'enfant Jésus resta à Jérusalem, ses parents ne s'en aperçurent pas. Le fait qu'il s'en soit pas aperçu, ça indique à quel point ils avaient confiance en lui. Et ça, c'est un témoignage de la liberté qu'il avait, parce que justement, le petit enfant grandissait et la grâce de Dieu était sur lui. Et donc, ils savaient qu'il se passait quelque chose avec lui. Alors, ils n'avaient pas la mesure. Ça allait bien plus loin que ce qu'ils pensaient, les parents. Et c'est ça qu'il explique. Voilà. Évidemment, ça s'explique aussi par le nombre, la famille, les amis, tout ça. Mais c'est particulier. C'est impressionnant quand même. Un jour entier de route, retour, avant de commencer à se dire, mais où est Jésus? C'est assez remarquable. Ensuite, ce qu'il faut relever, la première chose à relever, c'est 3 jours. 3 jours. Ils le trouvèrent au bout de 3 jours. Ça veut dire, il faut réaliser, parce que c'est juste ces deux mots, 3 jours, mais ça pose énormément de questions à une maman. Où il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Où il a mangé? Où il a dormi? Est-ce qu'il s'est lavé? Est-ce qu'il s'est brossé les dents? Dans ma famille, c'est la première question qu'on aurait posée. Moi, c'est la première que j'aurais posée. Est-ce qu'il a pu se brosser les dents? 3 jours. Alors ça, c'est les questions des parents ou des autres, ou d'autres adultes. Maintenant, vu alors du côté de Jésus, il a 12 ans, il le sait lui, il n'y a pas de souci, il faut manger, il faut dormir, tout ça. 3 jours. 3 jours, mais ça, c'est une information qui hurle à mes oreilles et dans mon cœur. Ça veut dire que Jésus, il s'est passé quelque chose qui l'a saisi, où il a mis le turbo. Il a déniché quelque chose. Il a déniché quelque chose. Il est tombé sur un trésor, et il n'a pas pu le lâcher pendant 3 jours. quelle passion! Alors, il est marqué dans l'Évangile que les gens étaient étonnés quand, plus tard, quand Jésus adulte enseigne et prêche, ils disent « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Autrement dit, Jésus n'a pas fait une école spécialisée pour connaître l'Écriture. Donc, il a entendu évidemment des extraits de l'Écriture, dans sa famille, à la synagogue, ou peu importe. Il a entendu ses parents rapporter, alors lisez Luc 1 et 2, qu'un ange a parlé à Marie, qui lui a dit ceci, même qui lui a dit le saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu, peut-être même que c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés, je ne sais pas tout ce qu'il a entendu. Il a entendu tout ça oralement, et petit à petit, il a grandi, et il est devenu intime du Père. Et petit à petit, il a pris conscience que c'est lui. Et là, on le voit après quand il dit les affaires de mon Père. Il est conscient que c'est lui. Il est conscient que c'est lui. Les anges ont dit au berger, c'est le Christ. C'est le Messie, celui qui est promis de tout temps. Et là, il est déjà conscient que c'est lui, mais c'est la première fois qui tombe sur des étudieurs du texte. Et là, il reste collé 3 jours. Et pourquoi il reste collé 3 jours? Et la seule explication possible, c'est que dans les textes, il retrouve un écho, il a un écho, il a un reflet de ce qu'il entendait dans l'intimité du Père. Et, parce qu'à 12 ans, on est quand même pas mal conscient des choses, et vraisemblablement un écho de ce qu'il avait connu avant l'incarnation. C'est-à-dire que quand il lit des merveilles comme, je ne sais pas, la vision d'Ézéchiel, ou etc., et je ne sais pas si les docteurs de la loi ce jour-là sont allés sur ce texte, mais quand il lit ça, qu'on ne lui avait pas lu avant, et qu'il commence à en parler, à expliquer, etc., et que lui, il pose des questions, là, il a un espèce, alors intuitif ou pas, enfin, jusqu'à quel point conscient, je ne sais pas le dire, mais il se retrouve, il a un texte qui est une émanation, un écho, un reflet de ce qui vit éternellement, de ce que lui, Jésus, vivait éternellement avec son Père avant de s'incarner, et de ce que son Père commençait à lui dire à mesure que l'enfant grandissait. Il a un écho de ça. Et c'est pour ça qu'il reste collé. C'est pour ça qu'il reste collé. Parce que quand vous lisez le texte, peut-être que le mot le plus important de tout le texte, c'est 3 jours. Parce que là, il y a un choc. Quand tu lis ça, le but de l'auteur, donc Luc, mais le Saint-Esprit, c'est que tu prennes un choc et tu dises, mais mince, là, il y a quelque chose. Vous me suivez? Waouh! J'ai une image pour illustrer ça. Une fois dans une émission, il y avait une émission à la télé sur les égouts de Paris. Ça attaque force. C'est glorieux, hein? Les égouts qui ont servi, donc ça a été creusé depuis très très longtemps, une bonne partie ont servi pour le métro, mais aussi pour toutes sortes de conduites, de téléphones, de d'eau, y compris d'eau propre. Parce qu'il y a une telle pression dans l'eau, dedans, que le sale dehors ne peut pas rentrer. Même si un tuyau se fêle, il n'y a aucun souci. Ça, c'est une parenthèse, mais ça m'a échappé. Et puis, j'ai vu l'émission, et alors, il y a des endroits où ils marchent, puis des endroits, c'est carrément, il y a une petite barque pour évoluer. Et alors, au croisement des... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces tunnels... Voilà, bon, c'est ces trucs... Et alors, il y a tout un réseau, hein. Il y a un réseau immense. Et à des croisements, et ça, je l'ai vu dans l'émission, aux principaux croisements, au coin des deux murs, il y a le nom des avenues qui sont au-dessus.
Voilà. Eh bien, Jésus, il est resté collé parce qu'il a trouvé dans les textes, il a trouvé... Et lui, il les connaissait, ses avenues. C'est là où il gambadait. Et là, il a retrouvé les noms. Est-ce que ça vous parle? Et pourtant, le même Jésus n'a jamais dit « J'aime ta loi ». Il a dit « J'aime le Père ». Mais quand même, il a dit « L'Écriture ne peut être abolie ». Il aimait dire « Il est écrit ». Il aimait dire « J'entends le Père, je fais ce que le Père me montre, je fais ce qu'il me dit, je parle selon comme le Père m'enseigne ». Vous vous rendez compte? Je parle comme le Père m'enseigne et je parle de ce dont il me dit de parler, etc. Je fais ce que je le vois faire, etc. Il aime dire ça et ça nous est hyper précieux parce que nous sommes appelés à ça. Mais il aime aussi dire « Il est écrit ». Et pour lui... Écriture et puissance de Dieu sont liées. Hein, vous connaissez hein, Marc 12, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pour lui, c'est lié. Alors, Alors, il écoute les spécialistes du texte, il questionne, donc là, on voit tout l'intérêt, dans, il est scotché, hein, il est scotché, mais aussi, on voit, et on lit au verset 47, que les gens étaient stupéfaits de sa compréhension. Et alors, il y a un mot qui émerge là, c'est « et de ses réponses ». C'est-à-dire que lui, il répondait. Il faisait ses commentaires à 12 ans. Et les érudits étaient stupéfaits. Et pourquoi? Parce que Jésus était un intime de l'auteur de ce qu'ils étaient en train de lire. Eh bien, c'est comme ça que je suis invité à lire la Bible, en étant moi-même un intime de l'auteur de ce que je suis en train de lire. Et alors là, oui, je reste scotché. Là, oui, là, ça prend une toute autre... Waouh. Alors, tout ça, ça apparaît donc dans la dernière partie du paragraphe, comme je l'ai relevé. Hein. C'est normal que les parents s'angoissent. C'est normal qu'elles disent « Pourquoi tu nous as fait ça ?» Ils n'ont pas élevé comme ça, nous laisser sans nouvelles pendant 3 jours. Hein, ça ne se fait pas, même aujourd'hui, ça ne se fait pas, à l'époque encore moins, à cet âge-là. Donc, c'est normal. Et puis, la réponse qui nous a tellement fait rire, « Pourquoi me cherchez-vous ?» Et alors, est-ce que vous croyez qu'il se moque d'eux quand il dit ça? Ça ne colle pas au personnage. Est-ce que vous croyez qu'il fait de la provoque? Est-ce que vous croyez qu'il les prend de haut? Est-ce que vous croyez que... C'est pas possible. Donc, la seule explication, quand il dit « Pourquoi me cherchez-vous ?» C'est qu'il est ailleurs. Il est ailleurs. Il est aux anges, c'est le cas de le dire. Il est aux anges, et on arrive de l'étage en dessous, et on lui pose une question... Et il répond déphasé. Vous comprenez? Pourquoi me cherchez-vous? Alors en plus, il enfonce le clou parce que sa maman a dit, ton père et moi. Donc Joseph. Et lui, il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? Et il parle d'un autre père. Qu'eux n'ignorent pas cependant. Mais là, ils n'y sont pas. Mais là, sincèrement, je pense, c'est pas marqué dans la Bible, mais je crois, hein, j'ai une subite révélation, non, c'est une blague. Je pense que Marie ou Joseph, non, Joseph a dû lui dire, mais dans quel monde tu vis? Eh bien, c'est exactement la bonne remarque. Mais dans quel monde tu vis? Mais dans le sien, dans le crypto de papa. Je vis dans le crypto de papa. À tel point que par moment, quand on vient m'interpeller sur ceci ou cela, eh ben, je sais plus de quoi on me parle. Alors que normalement, je dois le savoir. Ça fait 3 jours que j'ai pas donné de nouvelles. Voyez? Alors, c'est pas une exhortation à tous devenir des planeurs et c'est pas le souci. C'est pas le souci. On a le caractère qu'on a et on garde le caractère qu'on a. Mais, ou du moins le tempérament qu'on a, on le garde, hein. Mais, il y a un lieu secret où le Père t'attend.
que tu sois contemplatif ou même hyperactif, il y a un lieu où le Père, un lieu exprès pour toi, entre le Père et toi, où le Père t'attend. Wow. Et alors c'est si beau qu'après le texte précise, il leur était soumis. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se prendre, vous voyez, de prendre tout le monde de haut, et même, parce que là, Jésus, à 12 ans, il a une conscience du Père, dont moi, à 58 ans, je rêve. Vous comprenez? Bon, mais c'est, il prend personne de haut, il leur était soumis, il n'y a pas de souci. C'est pas, obéir aux parents, ça n'empêche pas d'être intime avec Dieu, au contraire, ça aide. Et obéir dans le corps, et être soumis mutuellement, et obéir aux responsables, aussi ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est beau que ce soit marqué, il leur était soumis. Voilà. Et sa mère thésaurisait tout ça. Tu dis, oh là, il s'est passé quelque chose. Là, il n'y avait pas d'ange, là, il n'y avait pas d'ange, mais il s'est passé quelque chose, là. Voilà. Voilà. Alors, pour finir, parce qu'il faut. Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, un peu après avoir dit, nous contemplons le visage découvert, nous sommes transformés en la même image, un peu avant, il dit, aujourd'hui encore, quand on lit Moïse, un voile demeure. Parce qu'il dit, le voile ne disparaît que en Christ. Eh bien, ces docteurs de la loi, ils ont eu sous leur nez un enfant de 12 ans devant qui il n'y avait pas de voile. Et c'est pour ça qu'il était stupéfait. Il n'y avait pas de voile. Et Jésus dit, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre, c'est-à-dire il n'y aura plus le plafond, et ça, c'est la communication. Ils descendent où? Sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus est venu, et il est là, et là, il y a présence, face, communion de Dieu, ça veut dire pareil. Et il est là, et c'est pour toi, c'est pour moi, le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et donc, Jésus voyait dans les textes bien plus qu'on y voit usuellement. Eh bien, moi, je peux, dans la mesure que Dieu me donnera et au rythme que Dieu me donnera, voir dans ma Bible plus que je n'y ai vu usuellement. Vous remarquez que... Alors, je ne sais pas comment je vais m'arrêter. Vous remarquez que pour Jésus, passer 3 jours avec des spécialistes du texte, ça équivaut à s'occuper des affaires de son père. C'est dans ce contexte qu'il le dit. Là, il n'est pas en train de prêcher, de courir la campagne, de guérir des gens, de chasser des démons, ce qui est aussi s'occuper, faire les affaires de son père. Là, il est juste. Il écoute, il parle, il répond, il questionne. Et ça s'appelle s'occuper des affaires de mon père. Ce qui implique qu'ils ont parlé, les textes les ont conduits et les conversations les ont conduits à parler des affaires de Dieu et du dessein de Dieu. Ce que Dieu veut, et du Messie peut-être, et que sais-je, et du dessein de Dieu, et ils étaient là-dedans. Et Jésus, il savait que c'était lui. Il savait que c'était lui. Alors vous parlez qu'il est resté collé. S'il n'était pas revenu, il y serait encore. Non. Waouh. Alors j'ai promis de finir avec Matthieu 6. Ton père voit dans le secret. Et combien c'est précieux. On a, une des paroles de chant au début, il disait, c'est pas tellement comment les autres me voient. Je sais plus, c'était les mots, mais c'est pas comment. Ouais, même si on me regarde de travers, voilà. Comment les hommes me voient. Parce que le regard des autres, malheureusement, façonne un peu mon comportement. Des fois décide de mes paroles, etc. Et là, le regard de Dieu. Et alors, je veux juste mettre ces mots-là. Ton père voit dans le secret. En comparaison, Galates 4, verset 9, où Paul dit, après avoir connu Dieu, et c'est si précieux de connaître Dieu, et Jésus dit, la vie éternelle, c'est te connaître. Et Paul dit, après avoir connu Dieu, virgule, ou plutôt avoir été connu de Dieu. Parce que connaître Dieu résulte, moi je connais Dieu, ce n'est qu'un résultat d'une réalité que lui me connaît. Il me connaît,
me connaît, mais avec un cœur infiniment plus tendre et bienveillant que la meilleure maman du monde, et le meilleur père, ou le meilleur proche, vous voyez, il me connaît, et là, ton père te voit. Et là, il te choie du regard, il te bichonne du regard, et son regard, Apocalypse 1, ses yeux étaient comme une flamme de feu, parce que ce feu-là me transforme, me régénère, me transfigure. Et donc, je suis attendu dans le crypto de mon père qui est aussi ma mère, en fait, parce qu'il est au-dessus du masculin et féminin, on est bien d'accord ? Dieu n'est pas masculin. Il a créé du masculin et du féminin. Lui, il est largement, c'est la dimension au-dessus. Donc, là où, dans son lieu, dans son crypto, je suis attendu, et là, il me voit. Ailleurs aussi, il me voit. Ses yeux parcourent la terre. Mais là, il y a ce regard qui rentre, qui pénètre, et qui me transfigure. Alors, normalement, on finit là, mais je veux rajouter un mot. Passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas un prix à payer. Et je m'avance. Si vous entendez quelqu'un, même le plus joli prédicateur, dire « Il y a un prix à payer, c'est se tenir devant Dieu », eh bien, ne croyez pas. Croyez qu'il faut se tenir devant Dieu, mais ne croyez pas que c'est un prix à payer. C'est pas, le crypto, ce n'est pas un prix à payer. C'est un privilège. C'est le lieu pour lequel je suis prédestiné. Et c'est si triste de penser à dire « je veux voir des conversions, je veux voir des miracles, je veux moi-même être affranchi de telle ou telle tare au sens de poids, de fil à la patte ou que sais-je, et donc je vais payer le prix. Je vais me tenir, je vais chercher sa présence et je paye le prix. » Non, je ne paye pas le prix. Tu es d'accord ? Oui, amen. Vous avez la validation locale. Non, je ne paye pas le prix. C'est un privilège qui m'est fait. Alors, des fois, on paye un prix en se privant de quelque chose, parce que Dieu nous demande, pas pour gagner. Mais bon, passons. Je ne vais pas faire un deuxième message. Waouh. Là, je suis attendu. Notre Père, mon Père, Père de Jésus-Christ et Père de moi, le mien. Merci. Jésus, merci pour ces mots. Entre, entre, ferme la porte. Et là, ton Père est là. Amen.